Chapitre 87. Chaque marche qu'ils descendent les éloigne un peu plus de ce qu'ils connaissent. L'escalier secret qui, dans une atmosphère suspendue, s'enfonce vers un silence éternel, laisse présager un rendez-vous avec l'histoire. Au seuil de la crypte, l'historien, le théologien et les deux cochers choisis par Adinson s'immobilisent et restent bouche bée. On les dirait tout à coup pétrifiés. Même les érudits n'avaient jamais rien contemplé de tel. Vincent fait signe aux deux hommes. « S'il vous plaît, déposez le matériel au pied du puits et placez les lanternes sur la margelle. Quoi que vous entrepreniez, tenez les lampes éloignées des murs pour ne pas risquer d'enflammer le salpêtre. » Vincent se décharge de son équipement pendant que déjà l'historien approche des sarcophages. « Fascinant, proprement étourdissant. » Adinson lui tend des gants de coton blanc. « Enfilez ceci et ne déplacez rien sans consulter notre spécialiste des pièges. » L'homme au monocle glisse ses mains dans les gants de tissu. Le théologien, lui, s'attarde sur les arcs d'ogive et la croix pâtée qui les réunit à l'aplomb du puits. « Une symbolique vous apparaît-elle dans ce lieu, mon père ?» demande Vincent. « 42 marches pour descendre, 13 sarcophages, sans le moindre attribut religieux, un puits et la croix du temple qui domine l'ensemble. Si un sens se cache dans ce surprenant agencement, j'avoue qu'il m'échappe pour l'instant. » Vincent ouvre son col de chemise et dégage la clé boussole suspendue à une cordelette autour de son cou. La tenant comme un pendule, il la promène dans la salle. Il avance avec une lenteur extrême, à l'affût du moindre frémissement, du plus petit changement d'orientation. Il passe au plus près des parois et des sépultures, mais la clé ne réagit pas. L'un des hommes se penche au-dessus du puits avec une lanterne. Le halo lumineux n'est pas suffisant pour en éclairer le fond. Il ramasse un caillou et le jette dedans, sous le regard curieux de son collègue. Il leur faut attendre quelques secondes avant d'entendre un écho lointain. Dans un puits si ancien, l'eau est certainement croupie, commande-t-il. Prenant des notes sur des feuillets qu'il a tirés de sa soutane, le théologien s'affaire déjà à relever les inscriptions gravées sur les bords des couvercles. Debout à ses côtés, l'historien explique. Les sépultures sont à l'évidence liées par leur style. Chaque fois, une bordure de texte entourant une scène sculptée. La technique en creux est identique, tout comme l'importance donnée au personnage dans l'image. Je trouve cependant surprenant que ces cadres ne se focalisent pas sur un seul individu par tombe, comme si celui qui y est inhumé n'était pas le principal sujet. Cela me surprend aussi, approuve le religieux. Ces tombes constituent manifestement un message visuel. Elles se complètent, comme les vitraux d'une église ou les panneaux d'une tapisserie, pour raconter une sorte d'histoire, mais laquelle ? Aucune scène de bataille, commente Adinson, aucun fait d'armes glorieux, mais de simples rencontres. On dirait parfois que les hommes représentés s'offrent des objets. L'historien ajuste son monocle et réagit. Et si ce qui compte n'était pas au premier plan ? Avez-vous remarqué ? Les éléments de décor semblent inspirés de régions du monde différentes. Peut-être ces sarcophages évoquent-ils des voyages ? Il pointe une scène. Sur celle-ci, on devine des lignes typiques d'une architecture asiatique, très inattendue sur une tombe médiévale européenne. Et sur cette autre, si je ne craignais pas l'aberration historique, je me risquerais à reconnaître des monuments du sud de l'Amérique. À première vue, fait remarquer le théologien, les dates gravées sur les pourtours se situent toutes entre 1220 et 1305. L'historien reste songeur. l'apogée de l'ordre du Temple. Il était alors tout puissant. Mais si... L'homme s'interrompt, tétanisé. Vincent l'a senti lui aussi. Un très léger tremblement du sol. Il interroge ses autres compagnons du regard. Tous hochent la tête. Plus personne n'ose bouger. Cavell s'accroupit et plaque ses paumes sur les dalles. La dernière fois qu'il a été confronté à ce genre de phénomène, le sol s'est rapidement dérobé sous ses pieds, provoquant l'une de ses plus belles paniques. Il ne se laissera pas surprendre une seconde fois. Si j'en donne le signal, vous quittez tous cette salle au plus vite en rejoignant l'escalier. Un piège se serait-il déclenché ? Demande le théologien, très pâle. Venant de ceux qui ont imaginé ces lieux, je m'attends à tout. Une seconde vibration parcourt les structures. Vincent se relève et s'adresse aux deux cochers. Que l'un de vous surveille la voûte. À la chute du moindre grain de poussière, prévenez-moi. L'autre ira se positionner sur l'escalier pour se préparer à évacuer nos aînés. Un nouveau choc sourd, étouffé. Brusquement, le théologien se raidit, la bouche ouverte, les yeux exorbités par la terreur. Incapable d'émettre autre chose que des sons octés, il fixe quelque chose derrière Addison. « Mon père, que vous arrive-t-il ? » s'inquiète celui-ci. D'un index tremblant, le religieux désigne un des sarcophages. Encore un impact. Charles découvre alors ce qui épouvante son compagnon. L'effroi le gagne à son tour. Le couvercle du sarcophage central vient de se desceller. Il s'entr'ouvre, et le bruit semble venir de l'intérieur. Sans lâcher la tombe des yeux, Addison appelle d'une voix étranglée. « Vincent, regardez !» Tous les regards convergent vers la sépulture alors qu'une nouvelle secousse l'ouvre davantage. Se mordant les lèvres, l'historien demande à la ronde. « Croyez-vous aux revenants ?»« Voilà quelques jours, souffle Vincent, j'aurais répondu non. » L'homme, posté au pied de l'escalier, étouffe un cri et s'enfuit, remontant les marches 4 à 4. Son comparse jette des coups d'œil affolés du sarcophage à la sortie, hésitant à le suivre. La manifestation se répète, comme si l'occupant de la tombe dressée était en train d'ouvrir lui-même sa dernière demeure pour s'en extraire. L'historien tombe à genoux et joint les mains. Pitié pour nos âmes. Nous avons profané ce lieu. Nous avons réveillé la colère des morts. Nous sommes maudits. Cavell fait signe au cocher de relever l'homme de science qui a perdu tous ses moyens et oscille d'avant en arrière en balbutiant. Une nouvelle vibration décale la pierre. L'interstice s'est encore élargi. Vincent empoigne une lanterne. Tout en se maintenant à une distance prudente, il s'avance pour tenter de scruter l'intérieur du sarcophage. Mais il est encore trop loin. Il doit se risquer plus près. L'angoisse aux tripes, il soulève sa lanterne et plisse les yeux, incrédule. Il s'attendait à voir un squelette, sans doute recouvert de son bouclier et vêtu d'une cotte de mailles. Il envisageait même de découvrir le défunt brandissant une épée vengeresse. Mais il ne distingue rien. Strictement rien. Il fait un pas supplémentaire. Une nouvelle secousse découvre davantage le cercueil de pierre. Cette fois, le doute n'est plus possible. Il est vide. Cavell fronce les sourcils. Non seulement le tombeau ne contient aucune dépouille, mais il n'a pas de fond. Vincent se trouve face à l'ouverture béante d'un souterrain. Chapitre 88. Les secousses n'ont pas cessé, mais elles s'espacent. Le théologien tremble encore de tous ses membres. Addison et Cavell ont achevé de décaler le lourd couvercle et inspectent l'entrée de la galerie qu'ils dissimulaient. Soupçonnez-vous la même chose que moi, Charles ? Je le crois. Ce tunnel ressemble diablement à celui que nous avons déjà parcouru ensemble. Vincent se tourne vers Addison avec une moue désapprobatrice. « Avez-vous volontairement employé le mot « diablement »? » réalisant sa maladresse et l'effet qu'elle a produit sur le religieux qui s'est laissé tomber par terre, Addison présente ses excuses au pauvre homme. Vincent exhibe sa lanterne. « M'accompagnez-vous ou préférez-vous rester ici ?» Addison s'élance déjà. « Hors de question de vous laisser. Notre ami, par contre, devra nous attendre. » Les deux hommes s'engagent dans le boyau. Rapidement, ils perdent de vue l'ouverture et la salle au sarcophage disparaît derrière eux. Ils avancent avec précaution, d'un pas régulier. « Nous devons circuler sous le square du temple, » suppose Addison. « C'est probable. N'oubliez pas de compter vos pas. » Tandis qu'ils progressent, chacune des rares secousses qui se produisent encore se perçoit plus nettement que la précédente. Il semble désormais évident que le souterrain conduit vers leur source. Le tunnel serpente dans la couche de roche calcaire. Même technique de taille, même conception. Il s'étire, lui aussi jalonné de méandres. Sa pente est légèrement descendante. La lampe de Vincent accroche soudain des éléments non identifiés. Quelques mètres plus loin, les parois paraissent différentes, gonflées et déformées d'angles suspects. Elles présentent des reliefs et des aspérités inhabituelles. Méfiant, Cavell se retourne vers Addison. « Attendez là pendant que je vais vérifier ce qui se passe. » Vincent chemine à pas feutrés. Il scrute avec méfiance chaque relief rocheux, redoutant ce qu'il peut masquer. Ses surépaisseurs diminuent d'autant la largeur du passage, créant un goulet d'étranglement. Charles lui lance. Peut-être n'ont-ils simplement pas soigné la réalisation de cette portion autant que les autres. Seriez-vous prêt à jouer votre seconde vie sur cette hypothèse? Une secousse, toujours plus proche, fait vibrer le sol. Plus que jamais sur ses gardes, Vincent inspecte, touche la roche. Elle n'a rien de particulier, juste ces irrégularités grossières qu'il n'explique pas. Dans quelques mètres, il aura dépassé le tronçon suspect, sans toutefois avoir compris son utilité. Cela ne le rassure pas. Les parois redevenues planes, il fait signe à son compagnon de le rejoindre. Charles se faufile sans s'attarder dans le rétrécissement, d'autant qu'une nouvelle secousse, plus forte, indique qu'ils approchent de l'épicentre. « La direction vous semble cohérente avec notre hypothèse ?» interroge Addison. « Plus que jamais, et la distance ne devrait pas tarder à correspondre également. » Tandis que le tunnel amorce une courbe inédite, le sol à leurs pieds se révèle inondé. Plus les deux explorateurs avancent, plus il y a d'eau. En quelques pas, ils pataugent déjà jusqu'aux chevilles. Vincent est immergé jusqu'aux genoux lorsqu'il dépasse le virage. Il peut alors vérifier ce que Charles et lui pressentaient. Le boyau est brutalement interrompu par un effondrement qui l'obstrue en totalité. Nous n'irons pas plus loin, conclut Charles qui l'a rejoint. Vincent désigne le plafond entaillé d'une longue fracture qui se prolonge jusqu'au-dessus d'eux. Il serait même prudent de reculer. Avant de battre en retraite, les deux hommes prennent un instant pour étudier l'éboulement. À en juger par les fragments de roche en équilibre instable et le foisonnement de la terre, l'événement est récent. Plus de doute. Raisonne Charles, c'est ici que nous aurions dû émerger si nous avions réussi à franchir la grille sous-marine. Ce qui signifie que de l'autre côté, juste derrière cet amas, ce sont nos adversaires qui se démènent pour creuser. Sans doute sont-ils tombés sur un pan de roche écroulée qu'ils essaient de dépasser à coups de bélier, d'où les chocs. Ils y vont avec un bel entrain. Vincent savoure l'ironie de la situation. Vous rendez-vous compte? Nous ne sommes qu'à quelques pas d'eux. Ils n'ont aucune idée du face-à-face qui se joue pendant qu'ils s'acharnent. Tant mieux, car nous ne savons rien de l'avancée de leurs travaux. Et si les sbires de cette satanée aupe sacrée venaient à déboucher ici, il ne leur faudrait que quelques minutes pour atteindre la crypte. Vous avez raison. Il faut à tout prix les empêcher de continuer. Alertons la police, dénonçons-les. Vincent secoue la tête de dépit. Quand bien même certains seraient arrêtés, il en restera toujours trop en liberté, et ils trouveront un moyen de revenir terminer le travail. Je penche plutôt pour une solution plus radicale. Il faut les bloquer définitivement.
Comment ça ?
Vincent lève les yeux pour juger de l'état de la structure du tunnel. Nous pourrions effondrer une section supplémentaire. Le plafond est déjà fissuré. Ajouter quelques tonnes de gravats devrait les forcer à renoncer, d'autant qu'ils n'ont aucune raison de soupçonner que nous sommes derrière la manœuvre. Il nous suffirait d'étayer plus loin pour limiter la propagation du séisme et ils se retrouveraient ainsi face à un obstacle infranchissable.
Charles se frotte le menton, séduit.
Et ils en déduiraient que leurs propres coups ont provoqué l'aggravation de l'écroulement.
J'y souscris.
Sans perdre de temps, les deux hommes sortent de l'eau et rebroussent chemin. Alors qu'il leur reste encore quelques mètres à parcourir et que chacun réfléchit pour lui-même à cette nouvelle étape, Vincent s'arrête tout à coup, sans crier gare, à l'entrée d'une courbe et se jette contre la paroi. En masquant la clarté de sa lanterne, il intime à Charles de faire de même.
« Qu'est-ce qui vous prend ? Devant nous, des hommes embusqués !»
Charles fronce les sourcils.
« Ce sont peut-être les nôtres qui nous cherchent. »
Vincent déplie déjà son couteau pour se préparer à en découdre.
« Combien d'hommes avez-vous vus ? » chuchote Charles. « Je n'ai pas vraiment eu le temps de les compter. Pourquoi ne bougent-ils pas ? Ils ne font aucun bruit. »
Il prend l'initiative d'interpeller.
« Qui va là ?»
Aucune réponse.
« Tout cela n'a aucun sens, »
tranche Charles en s'écartant pour en avoir le cœur net.
« Donnez un peu de lumière, que l'on tire l'affaire au clair. »
Au moment où Vincent libère la clarté, Charles voit effectivement des silhouettes se découper plus loin dans le couloir. Quelque chose cloche, il le sent. Il prend la lanterne des mains de son complice et la déplace de gauche à droite et de bas en haut. Les présences se forment et se déforment. Il sourit.
Mon cher, nous venons encore une fois de nous laisser abuser par les brillants concepteurs de ce dédale.
Non sans une certaine fierté, il explique à Vincent le stratagème. En jouant sur les ombres et la lumière, les reliefs du goulet d'étranglement prennent l'apparence de silhouettes humaines.
Ces contours dont vous vous êtes méfié à l'aller ont été sculptés dans la roche de manière à générer des épouvantails hostiles dans la lueur des torches.
Un simple jeu d'ombre, constate Vincent en retrouvant son calme. Il replie sa lame. Charles s'amuse du procédé en agitant la lanterne. L'effet est sensationnel. Le balancement de la source lumineuse anime littéralement des profils de gaillards sur le pied de guerre. Vincent finit par sourire de l'illusion dont il a été victime. L'effet ne fonctionne que lorsque l'on emprunte le passage dans ce sens, note-t-il. C'est donc par ce tunnel que les visiteurs étaient supposés atteindre la salle aux tombes.
Tout désigne la crypte comme étant le sanctuaire, constate Charles. Les reliques et les trésors évoqués par le témoignage sont sans doute enfermés dans les autres tombes.
Il conviendra de faire preuve d'une grande prudence, ajoute Vincent. Ceux qui ont conçu ces passages et leurs pièges n'ont pas pu les laisser sans protection.
C'est vous le spécialiste.
Les deux hommes reprennent leur cheminement. En passant, Addison effleure une dernière fois les reliefs si ingénieux. Ni lui ni Vincent n'ont la moindre idée de ce qui les attend.
Chapitre 89.
Alors que la sortie du tunnel se profile enfin, Vincent aperçoit le théologien, toujours par terre, adossé à la margelle du puits. Le pauvre homme semble ne pas avoir surmonté le choc. Il fait peine à voir. L'historien est venu s'asseoir à ses côtés, sans doute pour le réconforter. Quelque chose dans leur posture intrigue Vincent, mais il n'a pas le loisir de s'interroger davantage. À peine a-t-il débouché du sarcophage qu'un homme surgit et le met en joue. Il n'a pas le temps d'avertir Charles et tous deux se retrouvent sous la menace de l'arme.
Les mains en l'air, vous deux.
et tenez-vous tranquille. »
De son canon, l'homme leur fait signe de rejoindre les cochers et le gardien de nuit du bâtiment, déjà ligoté. Un complice leur attache les mains dans le dos. La crypte est désormais sous le contrôle de 4 intrus. 2 d'entre eux surveillent les captifs, pendant que les autres fracturent déjà une sépulture et fouillent la dépouille avec avidité. Sans aucun respect, ils retournent le corps et le contenu à la recherche de bijoux, d'objets de valeur. Révolté par leurs agissements, Vincent ne peut cependant s'empêcher de remarquer l'apparence singulière du mort. Le cadavre n'est ni décharné ni décomposé. Plusieurs siècles après son inhumation, ses traits se devinent même encore avec une certaine précision, car il est momifié à la manière des pharaons. Son corps, bien que portant les attributs d'un chevalier, est intégralement recouvert de bandelettes de tissu. L'alliance d'une technique d'embaumement égyptienne appliquée à un représentant de la chevalerie chrétienne est des plus étranges. Les Vandales n'en ont que faire et continuent à s'en prendre à ses biens.
« Vous n'avez pas honte !» gronda Dinson, écarlate de colère.
Pour toute réponse, un des geôliers lui assène un coup de coude en plein visage. Vincent tente de s'interposer, mais privé de ses poings, se retrouve brutalement remis à sa place.
« Est-ce là l'enseignement de vos mages ? » proteste-t-il. « Est-ce en profanant des tombes, en les pillant, que vous construisez votre monde idéal ?»
Sa médaille de croisade est arrachée à un défunt avec une telle hargne que son cou se disloque dans un craquement.
« Barbare !» s'insurge Vincent.
L'une des brutes s'approche de Cavell et lui pose le canon de son arme contre le cœur.
Joshua sera content de te retrouver. Je crois qu'il t'aime bien. Pas moi.
Il lui flanque un coup de poing dans le ventre. Cavell encaisse tant bien que mal. Il doit réfléchir vite. La situation va devenir incontrôlable. Ces mécréants vont continuer à forcer les sarcophages les uns après les autres avant de les livrer à leur organisation criminelle. Addison et ses 2 compagnons ne doivent en aucun cas tomber entre leurs mains.
« Il n'y a plus rien à tirer de celui-là », déclare un pilleur en rejetant rudement la momie du chevalier dans son cercueil de pierre.
Il désigne déjà la sépulture suivante en ramassant un pied de biche. Une idée traverse l'esprit de Vincent.
« Si j'étais vous, je ne ferais pas ça. »
L'homme suspend son geste.
« Pourquoi ? C'est parce que tu t'apprêtais à faire ?
C'est toi qui as apporté ces outils. Essaie de me faire croire que tu n'en avais pas après les richesses qui dorment ici. »
« Pas de cette façon. Vous l'aurez peut-être remarqué, cette crypte regorge de surprises. »
Intrigués, les 2 hommes prêtent l'oreille.
Cavell doit absolument réussir à capter leur attention.
Prenez ce tunnel, par exemple. Il était dissimulé. Vérifiez, je ne vous raconte pas d'histoire. Vous avez eu de la chance qu'il ne vous arrive rien en forçant ce premier sarcophage, mais le suivant risque de vous coûter cher.
Explique-toi.
Vincent prend son temps, comme lorsqu'il livrait ses passages secrets à ses riches clients. À cet instant précis, les malfrats ne le considèrent plus tout à fait comme un prisonnier, parce qu'il sait quelque chose qui peut leur être utile. Avec calme, il renforce son ascendant sur eux.
Joshua le sait bien, et vous aussi sans doute. Votre bande n'a pas réussi à faire céder la cave de la maison de Flamel. Alors que moi, vous avez beau vous escrimer depuis, cela vous a déjà coûté cher, n'est-ce pas? Aurorae sacrum honorem.
Les pilleurs se regardent.
Tu prétends que ces tombes sont piégées ?
Je ne le prétends pas, je l'affirme. Les 4 hommes échangent des coups d'œil indécis. L'un des sbires demande :
Es-tu capable de les ouvrir sans danger ?
Pas seul.
Il me faut l'aide d'un de mes hommes.
Du menton, Cavell désigne celui des 2 cochers qui ne s'est pas enfui, pariant qu'il sera le plus fiable s'il faut jouer des points. Le bandit qui les tient en joue consulte ses complices.
Qu'est-ce qu'on fait ? On tente le coup ?
Ils discutent, tergiversent. Cavell en profite pour murmurer discrètement à ses compagnons.
Préparez-vous à vous jeter au sol et protégez-vous. Les balles risquent de siffler.
Addison n'a pas le temps de lui demander ce qu'il envisage. Les pilleurs sont tombés d'accord et déjà, L'un d'eux revient vers eux pour libérer Vincent et le cocher qu'il a choisi. L'air mauvais, il grogne. Je n'hésiterai pas à t'abattre, t'as pas intérêt à faire le malin.
Ce n'est pas mon genre, surtout avec ce qu'il y a à ramasser.
En prenant un air assuré, Vincent désigne un sarcophage.
Je vous conseille de commencer par celui-là.
L'homme au pied de biche se positionne déjà et son acolyte va pour lui prêter main forte.
Cavel s'empare d'une lanterne sur la margelle et, profitant que les crapules entament leur immonde besogne, il prend son élan et la projette de toutes ses forces contre le mur. Dans un grand fracas, la lampe se disloque sur la pierre et son pétrole s'enflamme en se répandant sur les parois couvertes de salpêtre.